Allô?
Oui, la régie.
Est-ce que nous sommes à l'antenne?
Oui, je crois que la liaison a été faite.
Ah oui, en effet, c'est...
Tout à fait.
On nous fait signe, effectivement.
Mon casque me fait dire que nous sommes à l'antenne.
Vous n'avez sur ce cas?
La radio qui déboîte.
Une journée qui a été, qui a connu pas mal de surprises, alors cette fameuse journée avec tous les matchs à 21h qui a fait pas mal de débats, là. Une journée qui a vu la victoire notamment de Lille contre le Paris Saint-Germain. On a évidemment Flo et notre ami Enzo pour nous en parler. Bonsoir messieurs.
Ouais, bonsoir, même si c'est pas terrible, mais bonsoir.
Également ce soir parmi nous, Roméo, pour parler évidemment du match de demain qui sera Bordeaux-Marseille. Salut Roméo.
Salut Arnaud.
On a évidemment notre cher Belge, notre cher PDG, le Managing Officer, comme on dit en anglais. Bonsoir Chris.
Bonsoir à toutes et à tous, je l'ai fait en belge.
Ah. Commenter le match de Monaco, on a Hugo. Salut Hugo.
Bonsoir à tous et à toutes.
Et Pierrot.
Bonsoir à tous.
Pour faire cette nouvelle journée de Ligue 1, je rappelle les scores. Auxerre a fait match nul contre Boulogne 0-0. Lille a écrasé le Paris Saint-Germain 3-1. Le Mans a été défait sur son terrain face à Lorient 3-0. Rennes et Lens sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Le TCC s'est imposé sur la pelouse de Valenciennes 3-1. Montpellier-Nice 1-0 en faveur des Montpelliérains. Lyon est allé s'imposer 2-0 sur le terrain des Lanciens. Marcel Picot. Monaco s'est imposé 2-0 face à Sochaux. Et Grenoble-Saint-Etienne 2-1 pour les Grenoblois. Alors, messieurs, exactement. On va commencer sûrement par le match qui a été le plus suivi de la soirée, qui était le plus attractif, en tout cas sur le papier, le Lille-Paris-Saint-Germain. Lille qui était évidemment, vous le savez, sur cette fameuse dynamique de coller 3 ou à 4 pions à chaque équipe qu'ils affrontaient. Et ils n'ont pas dérogé à la règle ce soir, sauf que ce coup-ci, ils s'en ont encaissé un. Bah, je vais donner la parole à Enzo pour... nous faire d'abord une première impression à chaud de ce match-là. On a tous vu à peu près les buts, les grosses actions. Donc, qu'est-ce que t'en tires par rapport à la semaine justement que Paris a vécue, qui a connu des hauts et des bas entre la qualification là, contre Aubervilliers et puis la défaite contre Guingamp? C'est un enchaînement logique pour toi par rapport à ce qui s'est passé cette semaine?
Déjà, je voudrais adresser une petite pensée à mon compère Flo qui lui vit une sale semaine. Et nous aussi, parce que j'ai oublié de te faire sortir le PSG, déconne. Donc, ça doit aller mal pour lui. Non, si tu veux que je fasse quoi, une analyse du match, bah, y a rien. C'est pas compliqué, hein. Ça va aller vite. T'as 11 Brel qui joue en blanc avec un maillot à petits pois. Moi, c'est révélateur.
Un maillot bien moche, d'ailleurs.
Non, mais c'est révélateur, les petits pois sur le maillot, quand même, hein. Sans déconner.
Leur cerveau ou leur niveau de jeu?
Ouais, c'est niveau de jeu, cerveau, ça se saurait. Bref. Et ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois une espèce de bande de merde qui porte le maillot que des millions de supporters en France rêveraient de porter. Et ces espèces de merde sont même pas capables de se bouger un peu le cul pour essayer de faire quelque chose. Alors voilà, après on va me sortir c'est Lille, machin et tout. Mais Lille, ce soir, et Flo, tu me diras pas le contraire, c'était pas le Lille, moi, que j'ai vu sur les derniers matchs. Hein. Franchement, ce soir, Lille, tu fous une bonne équipe en face, c'est comprenable, tu vois.
Bah, bon, après... c'est ça le plus inquiétant, j'ai envie de dire.
T'as
dit ce soir à Lille, c'était pas non plus transcendant, mais t'avais l'impression que, enfin, ils jouaient tranquillement, mais ça suffisait, quoi. C'est ça le plus alertant.
Ah, mais c'est ça.
En fait, ils ont déroulé tranquillement, c'était tranquille. Ils ont pas poussé. Tu sentais que ils pouvaient jouer tranquille. Il y avait rien, quoi. Les Parisiens, je vais revenir sur le match du PSG, mais c'est comme t'as dit, il y a même pas de mots pour décrire le match de ce soir. Franchement, honnêtement, en tant que supporter parisien, j'ai rarement vu ça, rarement vu une prestation du PSG aussi mauvaise. Comme tu as dit, ce soir, il n'y avait rien du tout. Mais alors, pour avoir rien, c'est vraiment rien, quoi. Tu avais des joueurs qui n'étaient pas capables de faire plus de 2 passes d'affilée. C'était on essayait de récupérer la balle, on balançait devant un gros pastèque, et puis si ça touchait Harding, tant mieux. Enfin, d'ailleurs, ça l'a quasiment jamais touché, donc voilà.
Cette fois qu'il a eu un ballon, il l'a à peu près converti.
Voilà, voilà.
Deux tirs cadrés, un but.
Par miracle, cette action, là, elle arrive avec Maurice là, qui... Chaque fois que je dis son nom, ça me fait rire.
Jean-Eudes Maurice.
C'est quoi la seule occasion chaude du match quoi, pour Paris? C'est la seule occasion, bon, la même, ça n'a rien à dire, quoi. C'est contre le cours du jeu, là. Avant, il y a 3 buts chinois, il y aurait pu d'ailleurs en avoir plus. Froid, Hazard, il te récupère le ballon, il traverse 15 mètres, ils ne sont pas attaqués, ils sont tout seuls, face à ça de sa réunion, tout seul, aucune réaction, on les regarde jouer. La défense, encore ce soir, pitoyable. On se mange là, le deuxième avec Seara qui tente une retournée acrobatique qui sort complètement. Voilà. Je pensais avoir vu beaucoup de choses avec le PSG, mais franchement, ce soir, Oh là là, je suis vraiment dépité, quoi. Comme disait sur le public du PSG, ça ressemble vraiment comme si le groupe avait lâché, quoi. Enfin, là, ouais, c'est comme si le groupe. D'ailleurs, comme Boré. Ouais, je pense qu'il s'est énervé après le match.
La minute qu'on boit, c'est pour après. Attends.
Ouais, alors, juste avant, je vais peut-être prendre sa défense. Excuse-moi, Flo, avant de vous le critiquer. Parce que ce que j'ai trouvé affligeant, c'est que quand tu vois le PSG comme ça, inerte totalement, c'est exactement ce que vous disiez, en première mi-temps et en début de seconde mi-temps, c'est que le pauvre Camboiré, je le regardais, il a jeté 2-3 coups d'œil sur son banc, mais c'est que. T'as même pas une capacité de réaction comme l'effectif titulaire est à moitié pour sa grande partie très 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 faible, tu peux même
pas rien sur le
banc. Voilà, donc je veux dire à sa décharge, et pourtant je sais que je porte pas foncièrement dans mon cœur, mais à sa décharge c'est vrai qu'honnêtement il peut vraiment pas faire grand chose.
Mais à sa décharge de quoi d'ailleurs, Enzo, je sais pas si t'as remarqué, mais quand il donnait même plus les indications aux joueurs, il laissait ça à Ibertucci l'adjoint. C'est quand même assez rare, quoi. D'habitude, c'est lui qui prend les choses en main. Et là, comme une impression, quoi, qu'il avait complètement abandonné. C'était assez surprenant. Il était sur le bord de la touche, il réagissait même plus. Il regardait le match et il gueulait même plus, il réagissait plus. Je sais pas ce qu'il nous a fait ce soir. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui s'est passé, quoi.
Mais est-ce que tu as remarqué aussi que dans ses interviews, tout le temps, il est là à rabâcher, ouais, il faut avoir la haine de perdre, tout ça. Mais est-ce que lui, il a la haine de perdre?
Jamais de la vie.
Tu vois, il est sur son banc, et comme disait Arnaud, il est dépité et tout ça, mais jamais il essaie au contraire de dire, bon, j'avoue, qu'est-ce que tu veux relancer, mais tu, je sais pas, tu essaies de leur transmettre un truc, tu montres déjà toi-même que t'as pas envie de le perdre ce match, même s'il y a 3-0, tu vois.
J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à prendre des décisions, quoi, et qu'il en a pas d'ailleurs les possibilités, enfin.
Là, ça met en cause alors les épaules, quoi. Est-ce qu'il a la.
Voilà,
Ah oui, non, mais ça, il les a pas. Non, mais c'est clair. Ça fait plusieurs mois qu'on se le dit. Quand on a pris Comboiré, on était tout content au début, machin et tout. Quand tu prends un peu de recul, tu te dis surtout que c'est un manque d'ambition qui est craignos. Parce que Comboiré et le PSG, ce sera sûrement le summum de ce qu'il pourra entraîner toute sa vie. Tu vois, le mec, il a entraîné Strasbourg, Valenciennes, excuse du peu.
Là, il a la réserve du PSG.
Et la réserve du PSG, autant pour moi. Et là, il arrive, tu vois. Et voilà, effectivement, il y a peu de membres qui sont utopiques, qui disaient, voilà, il y a peut-être un problème, tu vois, entraîneur Comboiré, adjoint Bertucci, machin et tout. C'est vrai que ça fait un peu faible. Moi, je me rends compte maintenant qu'on a été naïf à croire qu'en se disant ça peut marcher. Non, Comboiré, ça ne marchera pas. Parce que c'est le genre de mec qui n'a pas de charisme, même s'il essaie de se cacher derrière ses coups de gueule. Mais c'est pas le genre de mec qui fait
tout ça. Je vais encore me rabâcher, je suis énervé. Mais voilà, quoi. Il faudrait aussi qu'il remette en cause sa méthode de travail et puis son discours. Je crois que là, maintenant, ça passe plus. On l'a bien vu encore ce soir. Il ne sera pas viré, comme je le disais, il ne faut pas se leurrer non plus.
Non, hein, il ne sera pas viré, bien sûr.
Il va rester jusqu'à la fin de la saison, vous avez interpellé.
Ça c'est sûr, il ne sera pas viré. Le capital ne va pas se défiler sur ça.
Celui qui a des indemnités à payer.
Voilà, il ne donnera pas d'argent. Donc voilà, comme ouais, ça, il va rester, c'est sûr. Mais c'est quand même inquiétant, surtout là, le calendrier qui arrive, il n'est pas super simple. Donc, il va falloir vite se rattraper du côté du PSG et puis changer quelque chose, quoi. J'espère aussi du côté des supporters, au lieu de se taper dessus, ça va se bouger et se serrer les choses. C'est sympa aussi de se battre en tribune, de se foutre des fumigènes dans la gueule, mais quand il suffit vraiment de reprendre ce club, quoi, de faire passer un message et d'essayer de réagir, quoi, parce que ce qui se passe là, c'est qu'on a tous un peu trop laxiste aussi, on laisse passer maintenant, on a l'impression que c'est une habitude quand du côté du PSG. Le PSG perd, c'est pas grave. C'est pas grave. On verra au prochain match. On gagne contre Valenciennes 4-0, on est tout content. Mais voilà, quoi. Depuis le début de la saison, c'est pareil. Contre les équipes à peu près supérieures de championnat, on n'arrive pas. On se fait pitcher à chaque match. Et puis bah pour Cambori, là on l'a pas dit, mais je pense que ça y est, c'est l'heure, Enzo. Je sais pas si tu peux le dire.
Tu commences? Non, parce qu'il faut expliquer le contexte quand même. Ouais, non, mais donc 3-0 pour Lille. Donc bon, on est à 80e, 82e, je sais pas quoi. Et bon, Erding marque. Et sur l'engagement, tu vois Erding qui se fait remplacer par Camara.
Voilà. Voilà. Donc on fait rentrer un cinquième défenseur.
Voilà.
Et
alors, c'était le coaching.
Voilà. Bon, ouais. Donc il y a ça aussi. Bon, je sais pas si.
Non, mais il y a ça, mais même, quand tu vois le mine de rein, la
il avait pas de problème physique ni rien.
Non,
part sur l'action d'avant, quoi. Mais après, voilà, si on veut remonter en amont, faut se dire qu'il y a un problème qui est plus profond. Quand tu vois l'équipe alignée, que tu vois qu'à gauche on met Chantôme, qu'à droite on met Jallet. Alors Jallet est très bon, ça, je critique pas Jallet. Vous allez voir où je vais en venir. Mais mine de rien, Jallet, ça reste un mec qui à la base est arrière droit, et Chantôme, ça reste un mec qui est milieu défensif. Et tu les mets en ailier, et tu mets Chantôme pour remplacer le mec qui joue milieu gauche normalement, mais qui n'est lui-même pas milieu gauche. C'est saignant pour ceux qui ont du mal à suivre. Et là, tu te dis quand même, mais putain, mais au niveau transfert ou je sais pas quoi, faudrait peut-être pas se renforcer, faire quelque chose, tu vois.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le compte de tout, aussi,
c'est grave.
C'est aussi mettre Traoré, titularisé Traoré ce soir, défenseur central.
Ouais, mais oui, bah, c'est vu.
Tu sais que les attaquants lillois sont connus pour leur vivacité et pour être rapides, pour jouer simplement et tout, pour jouer au sol. Quand tu mets Traoré ce soir, le mec, il a une tête forêt derrière lui, quoi. Il avance plus.
Oh, j'adore l'expression.
Elle est magnifique.
Excellent, hein, celle-là.
Camara, il est revenu de blessure, ok, il est pas super, mais honnêtement.
Mais Armand qui fait un match encore de merde, Sako qui a perdu toute sa sérénité.
Ah, mais d'ailleurs, il s'est
Sierra qui fait un ciseau coupé décalé, je sais pas d'où il le sort, faut arrêter au bout d'un
moment. Et passera non plus.
Sur Serra, je pensais. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée il a déjà joué, alors je me souviens plus effectivement de ses performances. Mais de Jallet arrière droit.
Et moi je le préfère milieu, franchement.
Préfère milieu, d'accord.
Ouais, il apporte plus, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair.
Puis surtout après, c'est milieu droit, t'as qui? T'as Julie. Julie.
Ouais, non.
Il avance pas, donc il n'y a pas de solution, quoi. T'as Julie, mais t'es quasiment obligé de mettre Jallet milieu droit à cette heure-ci. Donc t'as pas de milieu gauche, pareil. Alors,
voilà.
Les joueurs, enfin. Voilà, t'arrives pas mal, mais en même temps, est-ce que c'est une surprise, quoi, j'ai envie de dire.
C'est clair, voilà, bien sûr.
On récolte les fruits de ce que l'on sème, donc...
magnifique, celle-là. Oui, Hugo, tu voulais réagir par rapport à cette rencontre.
Ouais, mais de manière générale, est-ce que vous regrettez pas Paul Le Guen?
Oh là.
Non, mais attends.
Wow.
Avec Paul Le Guen, il y avait un minimum de résultats, quoi. Alors que là, c'est...
Non, mais... Ouais, je suis pas... Franchement, moi, je regarde pas Le Guen. Vraiment pas. Après, bon, c'est pas parce que tu chies de la merde qu'il faut se contenter de la chiasse, tu vois ce que je veux dire.
Non,
bon.
Non, j'aimerais bien que tu nous fasses un dessin, là, s'il te plaît. Parce que là, je crois que...
Non, mais Le Guen était mauvais, Camboiré est pas bon, mais c'est pas pour autant que je
regrette Le Guen. Oui,
voilà.
D'accord.
Et bon.
Ouais, parce que bah, c'est vrai que si on va dans le sens de Hugo... Le Guen, ça vous a fait 6e sur la dernière saison. Ça vous a fait. Et sur la saison d'avant, j'arrive même pas à
m'en rappeler. Ça fait 17e sur la saison d'avant aussi.
Ah bah oui, évidemment, oui. Donc, oui, donc c'est, non, mais c'est ça. Alors, en termes de résultats, on est quand même très. C'est assez relatif, on va dire.
En fait, ouais, je regarde surtout le choix des dirigeants de nommer des mecs pas capables de diriger le PSG. Voilà, c'est ça surtout.
Bah,
aujourd'hui, ils prennent des décisions, voilà, c'est un total échec encore une fois, c'est ça que je regrette. On a des entraîneurs mauvais depuis je sais pas combien d'années, voilà, c'est ça que je regrette, c'est qu'on n'est pas capable de trouver un mec qui est capable de mener ce projet du PSG à bien. Donc, voilà, c'est ça le regret aujourd'hui.
Non, mais surtout, comme entraîneur à Paris, ce qu'il faut vraiment, c'est déjà un mec qui a de la poigne, tu vois. Mais surtout, et moi je reste persuadé qu'on fait des erreurs à chaque fois, prendre un entraîneur qui n'a rien à voir avec Paris. Faut arrêter de prendre des anciens joueurs, des anciens qui reviennent pour la 30 000e fois et tout ça. Putain, tu vas chercher un putain d'entraîneur à poigne à la Guérette, tu le mets à Paris, il fait fermer sa gueule à ceux qui ont besoin de la fermer, et puis putain, t'essaies de monter un vrai projet, un truc sur le long terme, comme ils ont monté à Marseille. Tu vois le projet qu'il a monté Diouf. Quand Marseille était mal, que c'était l'équivalent un peu du PSG aujourd'hui, qui luttait, qu'il sauve à la dernière journée contre Saint-Etienne en 2000 ou en 2001, je m'en rappelle plus trop. Putain, Diouf, il est arrivé au bout d'un moment, il a dit vas-y, moi je pose un projet,
on fait un truc sur le long terme. Et voilà, aujourd'hui, Marseille, c'est quoi? C'est une équipe qui est quasiment sûre à chaque fois de finir dans les trois premiers. Mais putain, qu'on pose un projet comme ça à Paris. Mais c'est incroyable.
Il n'y a pas de projet et puis il n'y a pas d'argent. Enfin, je ne vais pas faire non plus. Enfin, c'est pas non plus une excuse. Ce soir, d'ailleurs, c'est pas une excuse. Mais c'est ça aussi, tu veux monter un projet, mais tu ne peux pas aujourd'hui.
Oui, ben non, mais oui, l'économie est responsable.
Il n'y a, personne qui veut monter ce projet aujourd'hui. C'est aujourd'hui, on se tourne les pouces, on voit ce qui se passe, et voilà. C'est ridicule. C'est scandaleux. Voilà.
Bon, messieurs, après ce long monologue, mais pas vraiment monologue, ce long dialogue entre Parisiens, il ne faut pas oublier qu'il y avait une équipe en face ce soir, une équipe qui a encore montré toutes ses qualités, parce qu'on a reproché quelquefois, par-ci par-là, à Lille, justement, de mettre des cartons à des équipes type Nancy et jamais aux équipes vraiment de cran supérieur. Là, ils l'ont mis quand même au Paris Saint-Germain, même si on vous a prouvé pendant ce temps-là qu'ils sont aussi bons que Nancy actuellement. Lille, ont égalisé, j'ai une petite stat, un record du club qui datait depuis de la saison 1944-1950, c'est-à-dire que c'est la 7e victoire de rang d'affilée, donc, que la Lille vient de réaliser ce soir. Donc 7 victoires d'affilée, c'est vrai que ça commence à faire un joli paquet de points. Vous faites 7 x 3, 21, donc ça me laisse à penser que... Oui, je suis assez fort en maths, vous avez vu. Ça me laisse penser... ça me laisse imaginer une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de Lille, principal concurrent de Bordeaux? Vous voyez venir la question. Lille, principal concurrent de Bordeaux cette saison. Roméo, t'en penses quoi?
Bah, pour le moment, sur la forme actuelle, c'est clair que c'est la seule équipe qui arrive à...
Oui, voilà, c'est ça que je veux savoir. C'est, est-ce que tu penses qu'une forme comme ça, est-ce que la régularité peut s'installer vraiment à Lille, au-delà de ces 7 victoires? Et est-ce que ça peut vraiment être un concurrent sur la durée de la...
Ce qui est important ce soir, c'est que Lille montre que même sans Gervinho, Lille arrive à être performant. Et Obraniak, comme l'a dit Pierrot, remplace, on va pas dire à merveille, parce que Obraniak, bien sûr, même un Obraniak en bonne forme ne vaut pas forcément Gervinho, mais remplace agréablement. Il remplace comme il faut Gervinho. Et moi, j'avais une interrogation en ce qui concerne donc le départ de Gervinho à la CAN, et on voit que Lille arrive à pallier à ce départ. Donc moi, je vois
bien... Enfin, Roméo, il n'y avait rien en face quand même. Donc attends qu'il y ait vraiment un adversaire en face avant de voir si Lille peut vraiment pallier le départ de Gervinho. Parce que là, je veux dire un truc, ils n'ont pas besoin de Gervinho sur ce match. Ils n'ont même pas besoin de Landreau sur ce match, imagine.
Non, mais en dehors de ça... Lille arrive quand même à garder une certaine efficacité offensive, à continuer à être dangereux. D'accord, c'est Paris, mais parce que c'est Paris, on peut pas se donner un avis définitif, mais déjà, on a déjà une première idée.
Ah oui, non, oui, c'est sûr.
Ça commence à marcher pas mal, et Lille, c'est clair que s'il continue sur ce rythme-là, Lille va être très dangereux. Et là,
26 buts en 7 matchs, hein, je pense.
26 buts en 7 matchs, c'est impressionnant. Et le problème, c'est que je te dirais qu'ils ne peuvent pas faire mieux et qu'à un moment donné, cette série, il faut très bien qu'elle s'arrête parce que sinon, ils vont casser tous les records. Mais c'est clair qu'au niveau, au niveau du jeu, au niveau des qualités, des qualités intrinsèques, au niveau des individualités, Lille n'a pas envié grand-chose à Bordeaux.
Ah d'accord, toi, tu es carrément dans cette longueur d'onde-là. Donc ça s'accepte totalement. Hugo, pour finir sur les Lillois, t'es sur la même longueur d'onde que Roméo?
Ouais, moi je dirais à peu près pareil, mais c'est dans une forme éclatante. Et... Ouais, ils mettent des 4-0 à tout le monde, mais ça, à mon avis, ça n'a pas duré. Mais ouais, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose cette saison. Quoi. Ouais, par contre, je dirais pas qu'ils sont aussi bons que Bordeaux. Ou...
Mais si je peux me permettre de donner mon avis de Belge, il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a une vague quand même qui se dessine. Enfin, toutes les statistiques le prouvent au niveau du jeu, c'est énorme. On va voir un peu comment ça va se passer avec Gervinho. Je suis curieux de voir aussi la blessure d'Eden Hazard. Je ne sais pas si c'est grave ou pas, si vous avez des news par rapport à ça. Mais C'est
essayer de
vrai
vous tenir
que
au courant dans la soirée pour ça.
oh, c'est indispensable pour notre équipe nationale. On a pas beaucoup d'individualité, vois-tu.
Vous ne faites pas la Coupe du Monde, vous n'en avez pas besoin.
Ah bah oui, à la limite, hein, il peut revenir dans 6 mois. C'est vrai. Et non, mais par rapport au LOSC, simplement, c'est vrai, vous avez une très bonne réflexion. Arnaud te semblait dire que c'est la réflexion de Roméo. Je crois que maintenant, ça commence un peu à se populariser cette idée-là, que finalement, la bagarre, s'il y a bagarre, ce sera plutôt entre Bordeaux et le LOSC. Je pense pas que pour le moment.
Chose qu'on n'aurait jamais imaginé en début de saison, hein, faut bien le dire.
Inimaginable, mais.
Honnêtement, tout le monde, on mettait tous à peu près, on était tous d'accord pour mettre compte tenu de la fin de saison qu'ils avaient fait l'an dernier, Lille dans les 5 premiers ou 6 premiers. Mais on aurait mis déjà, je vous dis, 3 ou 4 équipes avant eux au niveau de la concurrence pour Bordeaux. Enfin, j'en suis persuadé.
Non, mais tout à fait. Et si on fait. Enfin, c'est un peu plus stupide ce raisonnement-là. Mais si on fait déjà une expectative, pardon, il y a 18 mois, enfin, c'est hallucinant. C'est un vrai. Alors, est-ce que ce sera un bouleversement définitif, entre un virage très important au niveau des saisons qui va se confirmer? Je sais pas. Mais là, clairement, il y a un gros changement. Il y a un changement qui s'opère et l'Olympique lyonnais est le grand perdant de tout ça. Mais enfin, ça, c'est. L'avenir nous dira tout ça.
Ouais, Hugo, pour finir sur Lille PSG.
Enfin, un concurrent de Bordeaux, je ne sais pas trop si on aura cette saison. Ils ont déjà 6 points d'avance avec un match en retard sur Lille. Alors que Lille, c'est une équipe qui gagne tout. Bordeaux, il gagne tout aussi, faut le dire. Moi, cette saison.
Bah, c'est vrai que c'est peut-être moins flamboyant, quoi. On s'enflamme un peu sur Lille,
Ouais.
mais c'est parce que Bordeaux claque pas les 4-0 à tout bout de champ.
Non, mais Bordeaux, ils gagnent sobrement, ils font pas.
Voilà.
Ils s'entendent pas trop, mais ils font leur petit bonhomme de chemin. Puis moi, je pense que ça va se finir comme il y a quelques années où Lyon avait 14, 12 points d'avance sur le deuxième. Je crois que c'était Lens ou un truc comme ça. Et cette année, Bordeaux va mettre une branlée à tout le monde. Et voilà.
Concernant Lille, j'attends de voir, hein, parce qu'il reste quand même pas mal de journées. Donc, ouais, je pense aussi qu'ils seront pas loin du podium, mais il va falloir aussi pour les Lillois gérer. Au niveau du calendrier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont encore dans 4 compétitions, donc avec la Coupe de l'UEFA plus les 2 coupes. Donc ils auront pas mal de matchs à jouer. Donc va falloir aussi, s'ils arrivent à enchaîner ces matchs, je pense notamment au match aller-retour contre Fenerbahçe, où ils risquent de perdre pas mal de points. Donc voilà, pour Lille, ouais, pas loin du podium, c'est sûr, je pense. Ils auront les capacités, surtout après avec le retour de Gervinho. Mais j'attends de voir, faudrait quand même au niveau d'effectif si ça tient à la route, quoi. Mais ouais, c'est pas moi.
Ouais, enfin, Fenerbahçe, enfin, je suis moyennement d'accord avec toi. Je pense que Lille a largement les moyens de passer contre.
Ah ouais,
Dernière fois que j'ai vu Fenerbahçe. Ah non, c'était Bordeaux Galatasaray. C'était Galatasaray l'année dernière.
C'est bien qu'un déplacement en Turquie, c'est jamais ça.
Oui, non.
Si je peux, non, mais.
Qui tombe en milieu de semaine. Et que voilà, ça te fait quand même perdre
Non, on est d'accord.
mentalement, tout ça, voilà. Derrière, quand on enchaîne, si tu gagnes, bah, même si tu perds, faut se concentrer sur le championnat derrière et c'est plus difficile, quoi.
Ouais, si je peux te donner, excuse-moi Arnaud, de t'interrompre, mon
Ouais,
avis
c'est.
sur le championnat grec, enfin, on en fait quand même des tonnes, je trouve, sur les grands stades, etc. Moi, je vois ces équipes-là et il y a quand même une évolution qui est négative au fil des années. Moi, j'ai vu 2 fois j'ai vu Galatasaray cette année. J'ai vu ceux qui ont. Je crois que je sais plus l'équipe qui avait éliminé le Standard. Mais c'est franchement, c'est pas énorme, quoi. Donc, la pression du public, ou certes, mais quand même, le niveau de jeu du championnat, il
Ouais,
diminue au
voilà, c'est
fil des
ça.
années.
On est d'accord sur le niveau de jeu, quoi. Moi, quand j'avais vu, justement, c'était ça qui m'avait impressionné.
L'Olympiakos,
Quand j'ai dans le
voilà.
mauvais sens, c'était Galatasaray contre Bordeaux. C'était pitoyable le niveau. D'ailleurs, Bordeaux s'était fait sortir, il me semble, mais c'était contre eux que Bordeaux
C'est
s'était
la
fait
tasse
sortir. Ouais, c'est ça, ils se sont fait sortir contre eux. Et pourtant, Galatasaray, c'était archi nul, quoi. J'avais jamais compris comment Bordeaux savait plus se faire
arrive.
sortir.
Bordeaux s'en foutait un peu, sans doute.
Ouais, c'est vrai que Bordeaux s'en foutait à l'époque, quoi.
Moi, je vais même aller plus loin. Ici, il y a eu cette année-ci, il y a eu l'Olympiakos qui a joué contre le Standard à domicile. On nous avait promis un enfer, un chaudron. Les Standardmen allaient avoir peur, ils allaient faire pipi dans leurs culottes. Et on a vu le Standard qui a dominé pendant 85 minutes avec un public qui était. Je vais dire, bon, ce serait exagéré de dire que c'était un cimetière, mais c'était quand même pas une ambiance de folie, hein, parce que tu sais, quand le niveau de jeu n'est pas là, enfin, voilà, je suis juste un petit peu en désaccord avec ça, parce que c'est vrai, les chaudrons, etc., on en parle, mais les chaudrons, ça suit les résultats aussi, quoi. Et t'as beau avoir un chaudron, mais à un moment donné, quand la qualité de jeu n'est pas là pendant la rencontre, le public,
ça
il va.
devient une soupe
Ouais.
pas chaude.
Voilà, il va vite se taire, le public, hein. Et t'inquiète pas que contre Bordeaux, le public va vite se taire aussi, hein. Chaudron, pas.
Ouais, Thiro.
Il ne faut pas oublier non plus que Fenerbahçe est en tête de son championnat, ils ont l'expérience de la Coupe d'Europe, donc c'est vraiment pas un adversaire à négliger. Je pense, même si Lille est très impressionnant en France, je doute quand même que Lille soit favori de sa confrontation.
Non, non, mais alors là, par contre, là, on est d'accord sur le fait qu'il ne faille pas sous-estimer les Fenerbahçe, surtout que Lille a encore un cap à passer, pardon, en Europa League. Je les ai vus, notamment la double confrontation contre le Genoa et contre Valence. Et bah, Lille a encore certains progrès à faire sur la régularité en Europe, parce que ça n'a vraiment pas été très flamboyant, on va dire, cette phase de poule du côté lillois. Hormis, ça a été le match aller contre le Genoa où ils ont gagné 3-0. Ça a été la seule grosse victoire des Lillois. Sinon, ils ont perdu à Valence, fait match nul chez eux contre eux. Et Genoa, ils ont aussi perdu à Gênes, là-bas, 3-2. Donc, c'est vrai qu'on est d'accord sur cette confrontation-là, mais je voulais dire sur le potentiel intrinsèque des deux équipes, je pense quand même qu'il y avait une différence. Mais bon, on aura la réponse en février.
Oui, mais
Donc,
Lille a comme un jeu stéréotypé parce que. Il joue quasiment pas sur l'aile. Hazard, Rebraniak repiquent tout le temps dans l'axe. Ce qui fait que face à Paris, c'est passé parce que l'axe est très
Oh,
faible.
ouais, pas sur l'aile, je suis pas d'accord, il y a quand même deux centres, ça paraît enfin deux buts qui sont issus des centres, donc c'est pas négligeable non plus pour moi. Ma
Oui, mais
foi.
s'ils sont bien pris dans l'axe, ils n'arriveront pas sur les ailes et il n'y aura pas de centre.
Ma foi, on verra ça. On va donc passer à un nouveau match. On a passé pas mal de temps sur l'affiche, on va dire, de ce soir. On parlera de Lyon tout à l'heure. Là, on descend un petit peu au classement. Bien que Monaco soit cinquième, pourtant, mine de rien, avec 33 points exactement. Monaco qui s'est imposé ce soir à la 87e minute face à Sochaux. Un doublé de Néné aura couché les Sochaliens en environ 3 minutes de jeu. Donc, tout s'est joué on va dire, dans les 5 dernières minutes. Hugo, qu'est-ce que tu tires de ce match-là? On en avait parlé, je sais, en off, nous deux, juste avant la rencontre. On savait que ça allait être un match limite chiant. Ça l'a été totalement, on va dire.
Oui, après le bon match de Monaco, après un match de merde. Cette règle a été confirmée ce soir.
C'est la courbe sinusoïdale, tu sais qu'après le pic, ça redescend tout seul. Et là encore, c'était le cas.
Oui, la seule belle chose qu'il y a à voir, c'est peut-être l'engagement, enfin, le soi-disant engagement, plutôt la violence des joueurs, puisque bon, le coup d'harmonie sur Terki, c'est quelque chose à voir, hein.
Ah oui, ça je vous conseille. Enfin, je vous conseille. Quand vous allez voir la semelle qu'a mis la Aruna au défenseur socialien, c'est assez impressionnant.
C'est là où on voit toute l'intelligence de mettre de Guy Lacombe, de faire jouer Aruna en 10, sachant qu'Aruna c'est plus un 6 de formation. Bon, on va pas enlever ça à Lacombe qui fait jouer les joueurs n'importe où. Hein. Johnson en 9.
Mais pour le coup, quand t'as Eduardo Costa et Diego Pérez, tu te dis qu'un vrai 6, Aruna, il fait un peu faible à côté d'eux. Hein, parce que c'est deux gros bourrins, faut le dire.
Je dirais 90% des joueurs de Ligue 1 sont un peu faibles par rapport
Non, non, mais je parle physiquement.
Et physiquement, oui, bah oui, physiquement. Ils ont des carrières de déménageurs et tout, mais ils ont le talent d'un déménageur aussi.
Le talent d'un déménageur.
Ils portent très bien les meubles. Hein. Le déménagement depuis Grenier s'est très bien passé.
Et au-delà de ça, on a quand même les deux buts de Néné qui revient en tête du classement des buteurs. Néné qui a fait à peu près que ça du match, t'es d'accord avec moi? Enfin, que ça, bah, en même temps, il a deux buts où il faut pousser le ballon au fond. Sur le premier, il fait un crochet sur le gardien, mais bon.
Juste le crochet qu'on va lui accorder,
Accordé.
sinon le reste c'est assez facile. Et encore une fois, Néné a fait un match de merde. Puisque
Mais
bon,
en...
dans le jeu, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je trouvais Néné très pathétique. Il sait
Ah
pas
bah
gérer.
comme, comme depuis la environ 4e ou 5e journée, qu'il a repris totalement la confiance et qu'il garde le ballon environ 90% du temps, qu'il reçoit une passe. Quoi. Pour moi, c'est exceptionnel qu'il soit considéré comme un joueur grand talent. C'est un peu le Cécignon de Monaco. On croit que c'est un joueur de foot, mais.
Cécignon ne marque pas.
Ouais, c'est vrai que Cécignon, voilà, c'est différent.
Alors, Cécignon, non, Cécignon il croit qu'il joue au rugby, en fait, c'est pour ça.
Putain. C'est vrai que Néné, par contre, a une qualité de frappe assez exceptionnelle. Je pense une des meilleures de Ligue 1. Ça, on est d'accord, Hugo. On en parlait. Il a vraiment une qualité de tir, de corner et de coup franc assez intéressante.
Ligue 1, c'est ouais. Le meilleur. Parce que bon,
si d'ailleurs, il a.
Néné sur titulaire, c'est les coups qui arrêtaient. Parce que sinon, il aurait joué. Ça serait pas deux.
Bah, et puis c'est surtout parce qu'on n'a pas d'autres gauchers, faut dire, en même temps à Monaco. Sur milieu ailier gauche. Il n'y en a pas. Ouais. T'as des droitiers, t'as Pinot, Park, Alonso qui peuvent jouer sur le côté droit, même si Park joue plus dans l'axe. T'as pas vraiment de gaucher. Donc Néné a une place indiscutable et je trouve que. Et c'est malheureux parce qu'il gâche un talent extraordinaire. Là encore, il a. À un moment sur une action, il a réussi à se défaire de trois joueurs et il n'a pas eu la lucidité évidemment de donner son ballon. Et c'est pas la première fois que ça lui arrive, loin de là. Donc c'est vraiment dommage que Néné gâche ça par son égoïsme. Un égoïsme en fait auquel il s'est on va dire familiarisé durant la saison 2007-2008, ouais, c'est ça, durant laquelle ça a été le seul environ à surnager de l'équipe. Une saison où Monaco avait fini 15e environ, il me semble. Et cette saison-là, comme il était le seul à surnager, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. T'étais d'accord avec moi. D'ailleurs, c'était pour ça que c'était un peu embrouillé avec Ricardo à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles, Hugo.
Ouais, il s'était embrouillé et puis Ricardo l'avait viré.
Voilà. Donc c'est grâce à ça en fait qu'on va dire il a une certaine aura maintenant à Monaco, une certaine défense qui lui permet, une certaine légitimité qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Mais il faut qu'il sache qu'il y a deux saisons qui ont passé depuis et que c'est un nouvel entraîneur, un groupe qui a pas mal changé. Donc moi je suis un peu déçu du comportement de Néné, que ce soit enfin, sur le terrain, surtout en dehors pour l'instant il n'y a pas de soucis extra-sportifs. Enfin, j'en ai pas entendu. Entre Lacombe, pourtant Lacombe qui aime bien ce genre de petits conflits. Il en a eu avec Pinot pour l'instant, mais pas avec Néné. Donc, il faut espérer que ça dure. Oui, Chris.
Non, mais par rapport à Néné, je ne sais pas si vous le surestimez, etc. Il faut quand même dire deux choses. Moi, très souvent, quand je le vois, c'est vrai qu'il ne donne pas une impression, c'est clair, de puissance. Enfin, moi, je trouve toujours, il est un peu apathique, je trouve, en général, dans ses matchs. Et très souvent, moi, je ne sais plus si c'était
compris. Un peu désinvolte.
Oui, apathique, c'est un peu sévère. Peut-être désinvolte, effectivement, le terme est un peu plus judicieux. Mais voilà, mais après, c'est vrai, il est là quand il faut. Il est là quand il faut. Aujourd'hui, Ruffier fait un énorme match. J'ai vu un résumé du match. Heureusement qu'il est là parce que c'est quand même. Cette victoire, c'est quand même presque un hold-up, quoi. Et puis surtout, Néné, il est là. Il marque deux buts. Et malgré que durant ces matchs-là, moi, je vais faire mon belge, mais il y a une histoire belge. Mon beau-père, il me dit toujours les grands attaquants, il exagère sans doute, mais il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit. Les grands attaquants, ce sont ceux que quand tu es dans les tribunes, tu les vois jamais toucher une balle pendant le match, et quand tu les vois toucher le ballon.
Je suis tout à fait d'accord.
Ouais, non, mais c'est vrai. Mais c'est ceux qui savent toujours être tout ça pour dire que quand même, il est quand même meilleur buteur du championnat, et surtout, il sauve encore Monaco. Monaco qui est vraiment dépendant de Ruffier et de Néné. Je pense que ça, c'est vraiment le. C'est ma conclusion un peu de cette victoire. Je sais pas si vous en. Ouais, c'est dire le niveau sans doute. Oui. Dit notre ami
Flo. Ouais, ça on est d'accord par contre que ça traduise le niveau. De Monaco, ça on est entièrement d'accord, qu'il soit dépendant de deux joueurs, deux individualités. Comment ?
On est surtout dépendant de Néné sur coup de pied arrêté, parce que vraiment dans le jeu c'est n'importe quoi.
Ouais, non, on est dépendant de ses buts, quoi, c'est ça que veut nous dire Chris.
Ses buts, franchement, durant 2-3 mois il n'en a pas marqué. Et bon, à la fin on a trouvé un autre buteur, c'était Park.
Non, c'est trop irrégulier, Park. Dans les buts, c'est un joueur que j'apprécie. Au début, j'avais du mal à l'apprécier, mais c'est vrai que sa volonté et tout ça, ça me fait l'apprécier. Mais c'est vrai, Néné n'est pas un buteur, et ça on est tous les deux d'accord avec ça. Et pour moi, Monaco est dépendant de ça, puisqu'ils n'ont toujours pas trouvé ce foutu numéro 9. Ça fait un an et demi qu'on en parle, et ça fait un an et demi qu'ils ne l'ont pas trouvé.
Et c'est pas ce putain de Mazou qui va arranger les choses.
Et puis, inquiétant, dans le jeu, c'est toujours pareil. À chaque fois que Monaco gagne, même je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, la spirale, je crois que c'était en octobre ou en novembre, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que même quand ils ont des spirales de victoire, bah dans le jeu, la qualité, elle est quand même plutôt médiocre. Et ce soir, ils devaient plutôt être battus que gagner, mais ils gagnent quand même 2-0. Et finalement, classement, ils sont quand même pas encore super loin. Donc, c'est un peu une énigme, quoi. Bah voilà, alors que franchement, moi je me souviens pas, enfin, je suis moins le championnat de France que vous, mais je me souviens pas avoir vu un Monaco étincelant. Moi, je me souviens, ils avaient gagné un match 3-1, ils avaient eu 4 occasions dans le match. Là, ce soir, ils ont le hold-up parfait avec, encore une fois, un énorme Ruffier. Je pense que si Ruffier n'est pas dans les goals, n'est pas dans... Non, mais je veux dire, si c'est un autre gardien que Ruffier qui est un peu moins bon, il perd 10 points, quoi. Je pense qu'il a un impact énorme... Ah si, enfin, je pense. Il a un impact énorme au niveau de Monaco, quoi. Heureusement qu'ils l'ont, parce que c'est vrai que c'est... Encore ce soir, il était énorme.
Ah, mais quand il dit Ruffier, c'est le deuxième meilleur gardien de France, on prend pour un con. Ruffier, il a sauvé Monaco d'une élimination en Coupe de France contre Tours en faisant 3-4 arrêts décisifs et en arrêtant deux pénaltys. Ce soir, il nous prend un
ami. De France, tu veux dire français ou du championnat de France ?
De Ligue 1. Après, il y a Sébastien Frey, il y a Loris et tout. Et franchement...
Comme je te dis, Carrasco quand même fait une bonne saison avec Bordeaux. Duchesse, c'est vrai que c'est un peu irrégulier. Ouais, si tu peux le placer dans les trois, je pense que t'as raison là-dessus. Et c'est vrai qu'il est assez sous-coté, compte tenu qu'il joue dans un club très très peu médiatisé. Mais c'est vrai que Monaco est peut-être encore presque plus dépendant que Ruffier. Ce soir, il fait un arrêt, je pense que tu le conseilles aussi, Hugo. C'est l'arrêt sur un centre un peu improbable d'un joueur de Sochaux. On croit que le ballon est sorti. C'est Maurice Belay, je crois, justement, l'ancien Monégasque, l'ancien joueur qui est sorti du centre de formation de Monaco. Ouais, qui est bon, il s'est pas vraiment amélioré depuis, mais bon. Et il a réussi à faire un centre. Et je sais plus, il me semble que c'est. Je sais plus si c'est Boudbouze qui reprend dans l'axe le ballon, comme ça, alors qu'il est tout seul aux 6 mètres. Et le ballon est catapulté en pleine lucarne et Ruffier arrive à se détendre et à faire sortir une claquette exceptionnelle. Donc,
ouais, c'est vraiment très très bel arrêt. Et on peut dire que l'ange s'est envolé. Là.
c'est beau, effectivement. Que dire sinon en face, les Sochaliens, moi un peu déçu, je sais pas si tu te rappelles du match qu'ils avaient fait. Hugo, à l'aller, je ne sais pas si tu te rappelles que Monaco avait perdu 1-0 sur un penalty, mais comment ?
C'était pas 2-0
ou 2-0, je ne sais plus. Mais je ne sais pas, moi je me rappelle bien que Sochaux avait développé un jeu qui m'avait vraiment, vraiment impressionné. Et j'avais félicité d'ailleurs les quelques potes sochaliens que j'ai, et même ça existe effectivement, les amis sochaliens. Et je les avais félicités parce que je ne pensais vraiment pas qu'une équipe comme Sochaux pouvait être à ce niveau-là. J'avais vu des joueurs comme Marvin Martin, Boudbouze, qui développaient un jeu très très intéressant. Et je ne l'ai pas vraiment retrouvé quoi, ce soir. Ça m'a un petit peu déçu. Donc, on n'a pas vu grand-chose des deux côtés, Hugo. Ce soir, tu es d'accord avec moi?
Oh, tout à fait. C'est un match de Ligue 1. Un match moyen de Ligue 1. Quoi.
Ouais.
C'est bon. Un truc. Pour une fois, la pelouse à Monaco était potable. Et d'après les commentateurs de la télé, c'était la meilleure pelouse de France.
Voilà. Et je peux confirmer qu'au match aller, Sochaux s'était imposé 1-0 face à Monaco. Voilà,
c'est bien. Ma mémoire est infaillible. Je vous l'ai déjà dit. On va passer donc à un nouveau match. On va donc passer à Lyon qui allait s'imposer 2-0 sur le terrain de Nancy. Des Lyonnais qui... Alors, j'ai pas vu la rencontre, je ne sais pas si quelqu'un parmi nous l'a vu, mais des Lyonnais qui gagnent malgré un jeu catastrophique. Il faut dire que les conditions climatiques étaient exécrables. Il a plu énormément sur Marcel Picot et sur Nancy ce soir. Il faisait très très froid. Mais en tout cas, la 20e journée se solde par une victoire pour les Lyonnais qui... commençait, on va dire, à sortir un peu la tête de l'eau après la victoire contre Metz ce week-end. Roméo, est-ce que tu penses que Lyon a les capacités de se relancer, on va dire, dans cette deuxième partie de saison après la fin de la première partie sur Muret qui a été assez catastrophique?
Bah, en tout cas, s'ils ont les capacités de se relancer, on les a pas vus. Lyon, bon, ces deux buts, c'est un peu les arbres, parce qu'il y en a même plusieurs qui cachent la forêt. Non, l'arbre, c'est l'authentique expression. C'est l'arbre qui cache la forêt, parce que en dehors de ça, Lyon n'a pas bien joué. L'OL a été vraiment inquiétant, tellement Nancy a dominé le match. Lyon n'a pas vu le jour et Lyon marque sur sa première frappe cadrée. Enfin, si on peut appeler ça une frappe, parce que c'est un défenseur nancien qui dévie dans les filets le but, sauf que Chris touche le ballon sur la ligne. Et donc, Lyon n'a pas vraiment du tout été étincelant dans le jeu. Et Lyon ne peut, en tout cas, moi, si je suis le supporter lyonnais ce soir, après ce match, bien qu'il y ait les 3 points, je ne suis pas du tout confiant pour la suite, parce que ça devient vraiment inquiétant. On va dire qu'ils ont eu la chance de voir une équipe nancienne en face qui a bien attaqué, qui a dominé ce match, mais qui a beaucoup péché dans la finition. Et comme d'autres équipes, ça ne pardonnera pas. Donc Lyon, s'ils augmentent pas leur niveau de jeu, s'ils se donnent pas un petit coup de pouce, s'il n'y a pas quelque chose qui change, et ben ils se devront contenter d'une place en Europa League, voire moins bien.
D'accord. Et c'est vrai que, en plus, ce soir, apparemment, Lisandro a été fantomatique, lui, et qui était une des seules satisfactions de ce début de saison. Bon, on peut pas lui reprocher compte tenu de tout ce qu'il fait actuellement.
Il jouait lié droit aussi.
Ah, en plus, d'accord, hein, une nouvelle tactique intelligente de Mister Puel.
Exactement.
Oui, c'est vrai qu'on peut presque plus s'étonner. Puel qui va devenir la sorte de Domenech du championnat de France de Ligue 1, celui sur qui la fronde, en fait, ça bat tout le temps. Quoi. Même le gars qui ne connaît rien de foot, il sait que Domenech que Puel est un connard. Vous voyez, je fais même un lapsus entre Domenech et Puel maintenant. C'est vrai que. Et en plus, Puel, c'est vrai que les choix tactiques qu'il fait, si ce soir, effectivement, comme disait Pierrot. Notre ami Lisandro était ailier droit, ça ne va pas en sa faveur. À noter Gonalo qui a été le deuxième buteur lyonnais a en tout cas marqué son premier but de sa carrière en Ligue 1, but qui est intervenu donc à la 86e minute de jeu. Pablo Correa et puis ces joueurs, comme tu l'as dit, Roméo, peuvent se mordre les doigts parce que Nancy a dominé et parce que ils sont pris finalement 2-0, ce qui fait que les Nancéens bougent pas au classement et restent même plutôt dans la deuxième partie, tandis que les Lyonnais commencent de leur côté à remonter. Ils avaient leur magnifique maillot ce soir orange fluo et noir, un maillot que même les Parisiens peuvent leur envier, je crois. Je crois que même le maillot à poids du PSG ne fait pas le poids, je crois. À mon avis, là, sur celui-là, ils ont fait fort quand même, les designers de chez Umbro. Roméo, on va passer à une nouvelle rencontre que tu as vue, c'est-à-dire Auxerre-Boulogne. Non. Auxerre-Boulogne, si tu veux en dire deux mots, parce que je crois que s'il y a un attardé parmi nous qui allait voir ce match-là, je lui file ma maison et mon chien avec, et ma mère avec aussi.
Ça devient intéressant tout ça.
j'ai pas dit ma soeur, hein, j'ai dit ma mère.
Et pourquoi pas?
Non, mais comme là, Hugo, ça sonne comme un choc de la pédophilie. Trébert. Contre
ouais. excellent messieurs, mais on va si c'est bon, c'est minuit, donc vous avez le droit de partir sur les débats que vous voulez.
J'ai tout calculé. Non, mais c'est les deux plus grosses campagnes de France qui s'affrontent et ça donne un résultat un peu surprenant, 0-0.
Ceux qui ont payé une place ce soir.
C'était un duel Mussilo-Nicolas, surtout.
Ce qui explique donc le résultat de 0-0. Lorient qui a repris, on va dire, sa marche en avant, qui l'a...
Petit problème technique, nous sommes donc de retour. Voilà, donc tu disais que Lorient avait repris sa marche en avant. Nous t'écoutons.
Ben oui, alors on n'accepte pas quand Lorient gagne, c'est ça, effectivement. Monsieur. Vous m'excluez quand je clame les louanges du club lorientais, du clan de Christian Gourcuff. Donc, Lorient qui effectivement s'est imposé 3-0 sur le terrain du Mans. Donc, ils pointent en haut du classement de Ligue 1. Les buteurs du soir, c'est Koscielny et un doublé de Monterrubio, le revenant Monterrubio, après un passage par la Belgique ou par la Suisse, je ne sais plus. C'est
La
par
Suisse,
la Suisse. D'accord. Sinon,
non.
j'aurais pu chambrer mon ami, mon patron, surtout Chris.
Et sinon, ça m'aurait marqué. Comme cela ne m'a pas marqué, ce n'était pas par la Belgique. Voilà.
Voilà, effectivement. Parce que tout te marque, tout ce qui se passe en Belgique te marque. Faut dire, il n'y a pas énormément de choses qui se passent en Belgique.
Tout à
Donc,
fait.
les quelques choses qui se passent en Belgique te marquent. Lorient qui continue donc. Alors là encore, vous allez me dire sur une question un peu bateau, mais Flo, toi qui as vu Lorient quand vous êtes allé chez eux et que vous avez arraché un match nul un peu in extremis, là, le 1 partout, je me rappelle, est-ce que tu penses que Lorient pourrait viser, on va dire, une place européenne sans aller plus loin, sans s'enflammer? Est-ce que tu vois Lorient viser une place européenne?
Non, pas vraiment.
Tu me dis si je t'ai réveillé. Hein.
Non. Lorient, enfin, ils ont un bon collectif, en fait, c'est ça. Ils ont un collectif construit. Ils ont parlé du jeu du PSG, ben voilà, c'est au moins ils ont un véritable projet de jeu, en fait. Mais ça reste pour moi limité et ça reste pour moi. Ils ont un palier à franchir ils l'ont pas encore. Enfin, ils n'ont pas encore ce niveau même d'effectif qui pourrait leur permettre de viser une place européenne. Bon, là, ils sont septième, voilà. Je les situe, allez, entre la 8e et la 12e place, on va dire. C'est pas tant au niveau du jeu, hein, mais c'est plutôt au niveau de l'effectif ou de ce joueur qui n'ont pas, qui pourrait faire la différence dans les grands moments contre les grandes équipes, quoi. Pour moi, ils ont des certaines limites encore.
D'accord. Ouais, bah, c'est vrai que l'argument du gros joueur est tout à fait valable, puisque en dehors, on va dire, de Gamero, mais encore Gamero, il a jamais évolué.
Et puis aussi, excuse-moi, je te coupe, mais Lorient, il commence à avoir des rumeurs et ça va pas s'arranger. Et tu sais, pour l'année prochaine, pour le mercato, Bahirua, Gamero, enfin, Amalfitano, il y a beaucoup de joueurs concernés. Donc ça,
ouais.
ça pourrait aussi créer des petits dégâts dans les vestiaires. Donc voilà, il y a ça aussi, les Lorientais qui pourraient, en fait, cette fin de saison, plutôt penser à leur avenir qu'à leur saison présente, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, je suis quand même assez fier de Christian Gourcuff, outre la philosophie de jeu qu'on vante tout le temps. Et ça devient presque un peu lassant d'entendre toujours que ça soit de Larqué à Riolo dire toujours qu'il n'y a que le football champagne qui est beau et qui est gentil. Ce que j'aimerais souligner chez Christian Gourcuff, c'est qu'il a réussi quand même à gagner avec un effectif qui avait perdu deux de ses meilleurs éléments, si ce ne sont les meilleurs éléments de la saison dernière. Que sont Abriel et Siani, et ils ont parfaitement réussi à les remplacer en allant piocher un joueur en Argentine, en allant piocher un joueur en Ligue 2, et là. Comment?
Koscielny surtout.
Oui, bah oui, justement. Ouais. Et ça prouve que ça sert à rien de dépenser 8 millions sur un Stéphane. Pour avoir des bons joueurs, quoi. Donc. Ça, c'est vraiment la preuve que le recrutement, il suffirait d'avoir des vraies cellules de recrutement dans les clubs français, on en reviendra toujours à ce même débat, pour avoir vraiment des vrais résultats. Alors après, Lorient, même s'ils n'arrivent pas en place européenne, enfin, ils auront eu au moins le mérite de.
Tout est relatif quand même, Arnaud, dans ce que tu dis. Parce que tu parles des
Dis-moi.
personnes, bah, Lorient a acheté des joueurs au niveau de Lorient, quoi. Tu peux pas ramener, par exemple, pour revenir pour Sosa, voilà, tu as des joueurs de certains calibres, de certains standings que tu peux pas ramener au PSG. Tu peux pas laisser le temps on va voir.
Parce que pour toi, quand on ramène Souza et Everton, c'est
Ah,
mieux.
mais non,
il a fait mal.
Je suis totalement d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu comprends que.
Donc on a vu plus con à Paris, pour moi.
Oui, non, mais voilà, non, mais exactement. C'est juste pour dire à Lorient, on attend
autre chose de la cellule de recrutement. Et par exemple, on recrute des joueurs, ils ont le temps de progresser, ils ont du temps.
Ah voilà, oui, on est d'accord. Non, mais c'est vrai que c'était le petit tacle de minuit 5 et 32 secondes à mon ami Flo, parce que je t'aime bien. Mais parce que je sais que tu veux surtout plus voir ces Seignons. Mais c'était pas méchant. Quoi. On sait bien que ces Seignons et ses 4 enfants à 25 ans, ça reste un des meilleurs meneurs de jeu du championnat de France. On est d'accord. On va passer au. Oui ? Quelqu'un a voulu parler ?
Roméo, je crois qu'il voulait ajouter quelque
chose. Non, mais par rapport à tout, c'est exactement ça. Lorient a droit à une certaine marge d'erreur, à l'instar de, du Mans quand il recrute. Et donc, en plus de ça, ils n'attendent pas la même chose de leur recrue, comme l'a dit Flo. Et quand Lorient va chercher un Sosa, le PSG va plutôt chercher un joueur d'un calibre.
Un Sosa. Pardon. Excusez-moi, elle est pourrie, mais j'aime bien.
Non, mais un joueur avec une plus grande renommée. Quand Lorient va aller dénicher Veyrua, qui a un très bon rendement, on est d'accord. Mais le PSG va plutôt chercher un joueur confirmé, comme Herdy. Il y a une différence et le PSG ne peut pas se permettre de recruter de la même manière, de partir dans la même politique de recrutement que Lorient, alors que c'est pas du tout le même standing.
Bien sûr.
Ouais, et on va un peu plus bas au Mans, puisque eux, j'ai appris qu'ils achètent les joueurs de club en faillite. C'est qu'ils ont acheté le meilleur joueur de Moucron. Et en plus, j'ai vu que leurs supporters font beaucoup d'espoir sur eux. Ça va pas au Mans, ça va pas.
C'est qui le joueur de Moucron ?
Il dit Rouali, un joueur français.
Ah oui, voilà, ouais, c'est ça, ouais. J'avais entendu parler.
Donc là je confie. Non, il jouait bien, mais enfin, faut pas déconner, quoi. Là, je crois que. Bon, je connais un peu quand même, il dit Rouali. Je pense que ça va pas au Mans, je peux vous dire ça. Je peux vous dire que ça va pas au Mans.
Et Hugo, tu voulais finir là-dessus ?
Ouais, bah, c'est pour dire que le Mans, ils sont presque condamnés à la relégation.
Ouais, vas-y.
Ah, c'est une équipe qui a pas trop d'avantages de qualité et voilà quoi, ça va faire plaisir à Tuco cette relégation.
Bah c'est vrai que ça commence à être vraiment, on va dire, le Grenoble de la deuxième partie de saison, même si on a vu qu'en première partie de saison c'était pas reluisant, mais je vois vraiment pas effectivement comment, compte tenu du niveau de jeu qu'ils affichent, comment ils pourraient se sauver. Là, je les avais vus avant la pause de Noël face à Monaco. C'est vrai que c'est très 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 faible. Quoi. Et, alors que pourtant, Le Mans était une des équipes qui faisait le plus souvent une des équipes, on va dire, de petit calibre, qui arrivait à faire des on va dire performances assez impressionnante en première partie de saison. C'était une qui était plus régulière, on va dire, dans ce genre de performance un peu exceptionnelle. Ils arrivaient toujours avec quelques joueurs à sortir du genre Romaric, Cessignon quand ils jouaient vraiment bien, etc. C'était une équipe qui arrivait toujours à se classer, on va dire, dans les 6-7 premiers, et puis après elle redescendait, elle se remettait dans le rang. Mais c'était et là cette année ça a été dans les profondeurs du classement tout le temps. Ouais, Pierrot, tu voulais finir là-dessus?
Ouais, Le Mans, en fait, on voit qu'il n'y a pas de réel projet de jeu. C'est un peu la marche sur le terrain, parce que par exemple, pour Mathieu Dossévi, qui est censé jouer à droite, qui se retrouve derrière Anthony Le Talec, alors qu'il y a déjà Almen Abdi. D'ailleurs, Almen Abdi, qui devait jouer numéro 10, et finalement, c'est lui qui a joué en pointe et pas Le Talec. Il a fallu attendre la fameuse entrée de Wally pour voir du jeu à droite. Donc, peut-être que Wally, finalement, serait une bonne recrue, parce qu'au moins, il prend son couloir.
Je peux dire quelque chose par rapport à Le Mans par rapport à Wally. J'observe Le Mans depuis plusieurs années et souvent ils vont chercher leur.
T'observes Le Mans ?
Oui, non, parce
t'es
que.
T'es suicidaire.
Non, non, mais non, j'observe de loin Le Mans puisque tu n'es pas censé savoir que. Tu n'es pas censé savoir que Le Mans est un des clubs français qui prospecte le plus en Belgique. Et ils ont une politique, j'ai remarqué, je peux me tromper, mais j'ai remarqué au niveau des joueurs qui viennent chercher en Belgique, c'est quasiment toujours les mêmes profils, pas spécialement au niveau du jeu, hein, mais c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui percent dans leur équipe, mais c'est toujours dans des petits clubs qui donc des joueurs qu'ils achètent vraiment peu cher. Mais c'est forcément une politique risquée, c'est forcément une politique risquée, et c'est véritablement leur politique, et je peux t'assurer qu'à chaque fois qu'ils viennent chercher un joueur en Belgique, ici, c'est toujours dans un joueur qui a fait des bonnes choses, mais dans un tout petit club. Et évidemment, tu as ces joueurs-là à moindre coût. On parle d'Idi Rouali. Idi Rouali, c'est un joueur un peu technique, comme ça, un petit. C'est un joueur très polyvalent, etc. Mais il ne faut quand même pas déconner, il vient de Moucron. Ils vont chercher Idi Rouali. Moi, j'ai vu que sur leur forum, parce que je suis intéressé à son départ d'Idi Rouali, j'ai vu que sur leur forum, ils attendaient Wally comme un dieu. Il ne faut quand même pas déconner, ils l'ont acheté gratos. Ils l'ont acheté gratos alors que parce que Moucron avait fait faillite. Donc tu ne peux pas attendre non plus des miracles, même si Wally a montré de bonnes choses. C'est quand même un autre niveau, Moucron et Le Mans. Donc, voilà.
Le problème, c'est que Idi Rouali, j'ai dit, il prenait son couloir. Déjà, ça peut servir au jeu collectif du Mans. Et même s'il n'est pas très bon, déjà, il peut apporter des solutions nouvelles à une équipe qui n'avait plus de solutions.
Non, c'est un bon joueur. Maintenant, est-ce qu'il va confirmer au Mans? Ça, c'est toujours la question. Parce que c'est quand tu achètes des joueurs qui percent leur première année dans un petit club du championnat belge, ça peut être de très bons joueurs. On l'a vu, Le Mans a fait ça avec l'autre, Romaric. Il a pété la baraque à Beveren, ils l'ont pris. Bien, Laurent a pris. On voit où est Romaric aujourd'hui. Mais c'est une politique risquée. C'est une politique de gestion sportive risquée. Et donc, forcément, mais, je veux dire, au point où on est Le Mans, ils doivent prendre des risques, hein, donc voilà.
Enfin, oui, d'ailleurs, c'est un peu l'autre où la déchance du Mans, c'est que Le Mans profitait de la filière l'école d'Abidjan, Beveren, et ensuite Le Mans. Et maintenant,
c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y avait une tripartite entre Abidjan, Beveren et Le Mans via, je ne sais pas si vous connaissez le type, un type qui est très controversé ici en Belgique, Jean-Marc Guillou. L'Académie Guillou, oui. Un type qui fait pas l'unanimité ici.
Voleur d'enfants.
Parce qu'il allait chercher les Ivoiriens très très jeunes pour les ramener à Beveren dans son club à l'époque. Et on voit que ces joueurs de Beveren sont dans des grands clubs européens maintenant. Donc bon, il était peut-être visionnaire le type. Enfin bon, bref, large débat, n'est-ce pas?
Non, c'était juste ce que je voulais dire. Je demandais à Hugo s'il voulait faire un petit commentaire par rapport à ce qui s'était passé cette semaine entre Monaco et Montpellier, puisque on n'en a pas eu l'occasion de parler sur Génération Soccer de cette entre guillemets victoire écrasante de l'AS Monaco. Et pourtant c'est vrai que les Monégasques ont, on va dire entre guillemets, impressionné.
Oui, bah, ce mot on va pas les dire souvent dans à la radio. Monaco a mis une branlée à Montpellier, soit dans le jeu, que ça soit au niveau de la réalisation et tout, Monaco les a explosés.
Toutefois, on est d'accord qu'il faut relativiser la victoire compte tenu du nom des buteurs. Voilà, exactement. Quand tu vois que deux fois Runa a marqué, quand tu vois le match de ce soir, pour ceux qui n'avaient pas pu voir la rencontre face à Montpellier, quand tu vois que Sébastien Puy-Grenier, qui est défenseur central, a marqué, et quand tu vois que le dernier buteur...
Diego Pérez contré par... je sais plus.
Voilà, que Diego Pérez marque, alors là, c'est le summum de de la connerie humaine, on va dire, à peu près.
Aruna a marqué un peu plus.
C'est vrai qu'Aruna, son deuxième but est joli. Oui, c'est le deuxième, oui. Donc, pour revenir à Montpellier, ce soir, ils ont réussi à inverser la tendance. Et ils sont donc remontés dans le top 3. Ils avaient particulièrement à cœur de retrouver le chemin des filets par rapport à cette rencontre où ils n'avaient eu pratiquement aucune occasion. Et c'est un terrain apparemment à la limite du praticable sur lequel s'est jouée ce soir la rencontre entre Montpellier et Nice. Et c'est... c'est la nouvelle recrue montpelliéraine, Renato Civelli, tant regretté par mon ami Roméo, que c'est grâce à cette nouvelle recrue que Montpellier a arraché les 3 points. Donc, comme je dirais, une victoire habituelle pour Montpellier, puisque Montpellier gagne toujours, pour moi, comme ça, à l'arracher sur un but avec un but d'écart. Et en tout cas, Montpellier est dans le top 3. Alors pour moi, ça c'est une des équipes qui, entre guillemets, m'exaspère le plus, puisque déjà je hais profondément son propriétaire et voltairien président, on va dire, tellement ses envolées lyriques sont, sont dignes d'éloge. Et je hais également le jeu pratiqué et ce qu'on en a fait, parce que à chaque année, dès qu'il y a un promu qui arrive à faire un début de saison assez intéressant, on en fait un des candidats futurs pour le titre. Et ce qu'on a fait sur Montpellier, ceux qui arrivent à voir une ou deux fois des bouts de match de Montpellier, c'est honteux comment Montpellier arrive à gagner ce match. Apparemment, ils ont une série de pénalties accordées à... Je crois qu'ils ont réussi 4 matchs avec 4 victoires sur des pénalties, si je ne me trompe pas. C'était exactement entre la 6e et la 10e journée, j'avais regardé. Et là, et ce soir, ils gagnent encore à l'arraché. Alors oui, c'est beau, c'est un petit budget, c'est un club qui n'a pas énormément de moyens. Mais voir ça sur le... sur Montpellier, au-delà de l'attaque que je fais particulièrement au club et notamment à son président, parce que j'ai rien vraiment contre Montpellier, c'est je fais une attaque quand même à la Ligue 1, à l'encontre de laquelle je m'étais fait des illusions. Finalement, j'avais dit en début de saison qu'on pourrait peut-être voir une Ligue 1 qui s'améliorera encore cette année. Et quand tu vois, Chris, je sais pas ce que t'en penses, mais une équipe comme Montpellier qui est dans le top 3 avec le jeu qu'ils arrivent à pratiquer, à moins que ça soit une extraordinaire chance et une extraordinaire coïncidence, la Ligue 1 a encore un peu baissé de niveau quand on voit que personne n'arrive à se hisser devant une équipe comme Montpellier.
Franchement, sur ta question, elle est très très pertinente, elle est très intéressante. Honnêtement, je ne suis pas assez expert et je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à la question. Je pense que tu pourrais poser la question à d'autres. Moi simplement sur Montpellier, mais c'est une question très pertinente. Est-ce que le niveau de la Ligue 1 par rapport aux autres années, mais objectivement, je ne suis pas... Je ne pense pas que mon avis soit le plus pertinent puisque je ne suis pas celui qui le connaît le mieux championnat là. Par rapport à Montpellier, ce qu'on peut dire, c'est ce soir, moi je me suis un peu intéressé à ce match-là, notamment aux statistiques. Bah, Nice, tout simplement, n'a pas cherché à vouloir la victoire puisqu'ils ont été moins de 10% du temps dans le côté, dans le tiers montpelliérain. C'est vraiment ridicule. Par rapport à Montpellier, ils n'ont pas un jeu exceptionnel, mais bon, ils gagnent leur match. Finalement, vu leur niveau, vu leur potentiel, je pense qu'on peut pas leur demander bien grand chose. Et puis surtout, c'était un match très terne, près de 40 fautes quand même, match très haché, surtout des Niçois qui ont été voilà. Mais quand tu vois un match avec une quarantaine de fautes, quand tu vois que Nice n'a quasiment pas une occasion et Nice a été moins de 10% du temps dans le camp montpelliérain, voilà, je pense que Nice ne pouvait pas.
Ouais. Et quand la première phrase surtout de Ole Nicole, une déclaration que Hugo vient de nous transmettre, être en direct de Nice puisqu'il est dans les loges du stade de la Mosson. Bah oui, il y a des loges au stade de la Mosson, bizarrement, même si c'est un des stades les plus moisis français. Enfin, quoique avec le stade du Rennes, ça se vaut, quoi. Mais bon, il y a des loges là-bas. Et Ole Nicole a quand même commencé ses déclarations par on était venu pour prendre un point.
Oh non.
Au moins.
Si, incroyable.
Si, bizarrement.
Incroyable.
Exactement.
Alors là,
on n'aurait jamais imaginé
ça. Ah non, mais on pensait qu'il voulait prendre les 3 points, c'est pas vrai, non? On n'a rien compris, nous.
Eh ben, en tout cas, il nous a épatés, il nous a tous pris à contre-pied en conférence de presse. Et voilà, on terminera sur ces belles paroles. Effectivement, incroyable. Messieurs, on va rappeler les scores du soir, si vous me le permettez, avec donc tous les matchs qui se jouent à 21h, je vous le rappelle. Demain, il y aura le seul et unique match Bordeaux-Marseille, mais quel match? Enfin, on espère que ça sera un gros et beau match qu'on verra demain. De toute façon, Génération Soccer sera là pour en parler, évidemment, avec vous, parce que vous nous aimez trop pour nous lâcher le soir d'un match comme ça. Bordeaux-Marseille, demain 21h, n'oubliez pas. Ce soir, Rennes et Lens ont fait match nul à but partout. Monaco et Sochaux. Monaco s'est imposé 2-0 pardon, face à Sochaux sur son terrain Louis II. Le Mans a été défait sur son terrain face à Lorient 3-0. Toulouse s'est imposé 3-1 à Valenciennes. On fait un petit coucou d'ailleurs à notre ami Jérémy s'il nous écoute. Lyon s'est imposé 2-0 sur le terrain de Nancy. Lille s'est imposé 3-1 face au Paris Saint-Germain. Grenoble a été défait sur son terrain face à Saint-Etienne 2-1. Montpellier s'est imposé 1-0 face à Nice. Auxerre, Boulogne 0-0. Le classement, donc Bordeaux évidemment 6 points devant Lille, deuxième, et Montpellier troisième à 1 point de Lille, donc avec 36 points. Lyon arrive à remonter à la quatrième place avec 33 points, égalité de points avec Monaco, et Auxerre, tous trois égalité, donc avec 33 points, quatrième égalité, tout joué à la différence de but. En bas du classement, le trou est creusé, on va dire, entre Nice et Saint-Etienne, avec 3 points, que c'est par Nice 16e et Saint-Etienne 17e. Trois autres points, c'est par Saint-Etienne 17e et Le Mans 18e. Et derrière, Boulogne 19e avec 15 points et Grenoble 20e avec 7 petits points. Voilà pour le classement.